Alexandre Joly, quand on s'arrête en première station au plan de l'intitulé où il est question d'escadron, on se rappelle notamment votre exposition collective avec d'autres artistes dans le cadre de Mottier en plein air, et dans lequel vous présentiez aussi un escadron, ou plutôt une escadrille de kayak. Il y avait une manière peut-être de mêler les éléments eau, air, puisque ces kayaks étaient à la fois recouverts de plumes de paon, d'œil de paon également, enfin ce qu'on appelle dans ce ramage ou ce plumage, et puis en même temps d'écailles de poisson. Donc il y avait une manière de sillonner, de strier l'espace. Justement, ce côté à la fois de cette dimension d'escadron, d'escadrille, ça traverse un petit peu toute votre œuvre. Pourquoi cette ligne de fuite?
Ça ne traverse pas du tout toute l'œuvre, mais disons que c'est peut-être ce qu'on peut retrouver dans ces deux pièces, c'est le détournement des choses, des matières pour aller vers une poésie, vers des associations d'idées qui, au final, laissent beaucoup d'ouverture à tout un chacun pour interpréter, pour voyager avec l'œuvre, en fait. Donc, à Mottier, les kayaks recouverts de plumes de paon, donc c'était escadron. Ici, c'est escadrille 50S, qui d'ailleurs est une vraie escadrille, qui date, de la Seconde Guerre mondiale. C'était une escadrille d'entraînement pour les jeunes pilotes pour décoller des hydravions. Voilà, donc c'était les jeunes pilotes, des poussins. Donc le logo de cette escadrille, c'est un bateau avec une coquille d'œuf et un poussin qui jaillit vers le ciel. Escadron, donc les kayaks avec les plumes de paon suspendues au milieu de la forêt. Et ici, au White Box, des traces qui s'apparente aux traces des avions, donc fait avec de la ouate, au bout desquelles il y a des poussins. C'est deux pièces complètement différentes, mais qui se relient très bien dans l'ensemble de mon travail. Les choses avancent très instinctivement dans l'atelier, et puis et je réponds souvent de manière complètement instinctive à un lieu, à un thème, mais de manière très libre.
La notion de trace, de sillage, une manière de géométriser l'espace, comment est-ce que vous l'abordez justement pour ce type d'installation, que ce soit ici ou à Mottier notamment, parce que je crois que l'accrochage et sa spatialisation fait vraiment partie intégrante de toute votre approche.
C'est ça qui est super excitant quand on arrive dans un lieu, de confronter aux problématiques. Donc dans la forêt, on fait pas tout ce qu'on veut non plus, on utilise ce qu'il y a, donc les troncs, et puis on choisit des directions. Quand on parle d'escadron, c'est un groupe qui va ensemble vers un objectif. Donc chaque lieu impose son architecture ou sa géographie. Donc à chaque fois, c'est une aventure avec l'espace. Donc là, on peut vraiment parler de sculpture, De lignes dans l'espace, et donc il y a un côté très bricolé, mais en même temps qui impose quelque chose, qui occupe de manière assez radicale l'espace. C'est donc ici, l'enchevêtrement des lignes, un challenge à chaque fois de déployer ces traces ouatées dans l'espace.
La notion de camouflage, même si elle est impropre à qualifier votre travail...
Tu peux...
Alexandre Joly, pour revenir à cette dimension de camouflage ou d'intégration ou non dans un milieu ou un environnement, il y a une sorte... Enfin, pour parler comme Paul Ardenne, d'art contextuel que vous réalisez, pour ne pas parler de land art ou de notions qui sont pas nécessairement applicables à votre travail, mais l'exemple de Mottier, suivant quelle était la luminosité dans les fondaisons de la forêt, on avait parfois de la peine à distinguer, ou alors effectivement ces kayaks se confondaient avec leur milieu. Ici, un autre contexte où vous choisissez tout de même avec un autre matériau, vulteux, neigeux, cette ouate, mais de choisir le blanc sur blanc. Le sillage n'était pas obligatoire si on pense aux escadrilles d'avions Frecce Tricolore, par exemple, à la formation italienne, où effectivement vous avez les couleurs nationales, vous avez d'autres choses. Donc dans les représentations, y compris de cette escadrille, je crois qu'il y a aussi des couleurs qui peuvent être... Vous avez choisi véritablement un blanc sur blanc. Pourquoi ?
J'avais envie de minimaliser les éléments, et donc de mettre en avant une forme et puis d'essayer d'aller vers finalement une idée simple et qui pour justement laisser beaucoup de place à ce que je disais tout à l'heure, à qu'est-ce qu'on peut ressentir devant et ne pas être embrouillé comme ça par trop d'éléments. Au départ, en fait, je pensais que l'objectif de cette escadrille ne serait pas un seul pop-corn, mais une sorte de galaxie de pop-corn. Et donc, pareil, en commençant à travailler dans le lieu, qui est tout blanc, donc il y a une sorte d'atmosphère assez agréable et méditative. Et puis, je voulais tendre vers ça avec l'installation. Donc, voilà, j'ai réduit les choses. Donc au final, il n'y a plus qu'un pop-corn, les traces sont toutes blanches, les poussins sont naturellement jaunes clairs, j'ai pas investi le couloir, je me suis concentré dans le white box, pour mettre en avant une forme, pour aller vers une efficacité minimal.
On pense aux matières ou aux matériaux que vous utilisez. Il y a d'abord ce qui peut faire peut-être référence justement à l'aérien dans ce côté assez cotonneux, vulté. D'une autre manière, c'est vrai que le blanc, mais avec d'autres matières, d'autres textures, vous l'aviez utilisé puisque vous pratiquez la transversalité avec notamment des collaborations avec des chorégraphes, dont le duo Yadi Cantillon, la compagnie 72-73 pour leur dernière création, La La Lai, donc autour d'un revival des années 60-70, bien sûr avec ce néo-folk, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses par rapport justement aussi à une certaine fable que vous induisiez avec la présence d'un être tissé notamment de plumes qui ne se terminaient pas nécessairement, on y reviendra. Mais sur ce côté des choix des matériaux, comment est-ce que pour vous ça s'impose à vous ou comment ça germe comme ça pour cette installation ici par rapport à la fois ce coton puis en même temps cette escadrille comme ça
Tout me paraît assez vite évident et je fais beaucoup confiance à une sorte d'instinct. Les idées démarrent dans la tête, hein. On imagine des choses, il y a des liens qui se créent un peu comme sur ce programme du Grütli. Les idées, elles s'enchevêtrent et puis les matières, elles s'imposent avec une logique et puis... Je crois que je travaille vraiment sur cette idée d'instinct et je fais confiance à cette manière de choisir les matériaux. Les poussins, ils ont un petit duvet, c'est des poussins d'une semaine, ils sont en pleine mutation à cet âge-là, donc ils n'ont pas vraiment de plumes, donc c'est une sorte de duvet. Qui correspond très bien à leur trace faite de watts, ça s'associe de manière assez bien comme ça. Et ça va pas beaucoup plus loin pour choisir, faire un choix. C'est oui ou non, c'est ça, non, puis voilà, je pars assez vite.
Alors justement, la dimension un petit peu, je crois qu'on dit que vous éprouvez non pas le hasard, mais certaines dimensions qui peuvent avoir à la fois à faire avec la ludicité de la chose. On se rappelle que bon, la dernière Biennale de Lyon traitait justement du thème du jeu. On le retrouve souvent chez beaucoup d'artistes. Vous, comment est-ce que ça intervient ici, cet aspect justement ludique par rapport, pas nécessairement aux théories du chaos, mais au fait d'expérimenter, de jeter comme ça un petit peu les choses, parce qu'il y a un caractère quand même très ironique. C'est pas une formation comme on a l'habitude de les voir pour les avions, extrêmement rectiligne. Tout le monde n'est pas dans un tir groupé d'arrivée non plus. Il y a une certaine disparité. Certains sont un peu en retard dans leur circonvolution. Donc vous, ça, sur la dimension, disons, de jeu, qu'est-ce qu'il en est ?
Avec ce travail-là, je crois que je touche un peu une sorte de souvenir, mais revisité, hein, donc de vieux Tex Avery où les personnages peuvent exploser et réapparaître, où c'est Bip Bip et le Coyote, c'est la frénésie. Donc voilà, pour moi il y a beaucoup d'humour là dans cette pièce, mais qui cache des gouffres à plein d'endroits, mais je crois que j'ai envie de rester un peu comme sur un surf, voilà, et puis rester sur cette légèreté là, surfer avec ça. Mais
justement, vous citiez Tex Avery, ou on peut citer Chuck Jones ou d'autres. Effectivement, il y a une sorte de théâtre de l'absurde, de dramaturgie comme ça qui est poussée jusqu'aux extrêmes de la d'une irréalité qui retourne et qui cache aussi des gouffres, parce que les situations sont souvent, comme chez Keaton, limite borderline, justement, où on écroule à la fois les corps, les trajectoires, et qu'il y a des choses très violentes qui s'y passent aussi. Est-ce que vous, par rapport à ça, il y a justement dans cette manière peut-être de retenir ou de cristalliser un éphémère avec ses réseaux, parce que c'est vrai que quand on regarde la chose, on peut aussi pas nécessairement penser à des lignes d'ADN, mais j'entends il y a une caractérisation comme ça qui peut être assez proche de certaines visions moléculaires du vivant ou d'autres. Chacun laissera peut-être son imaginaire évoquer comme il le souhaite, mais en même temps, qu'est-ce qu'il en était justement par rapport à cet aspect je dirais pas du gag ou du gimmick ou du surgissement, mais c'est un petit peu des clins d'œil ironiques qu'on retrouve aussi dans vos collaborations avec des chorégraphes, même si c'est pour des matières au départ quand même parfois assez sérieuses.
Quand on parle là justement de cette limite avec le gouffre ou le côté dramatique, où là je parle du jeu, de la vie, de Tex Avery et tout ça, mais il y a la mort qui est très présente. De toute façon, les matériaux sont morts, les poussins sont morts, la ouate est morte, c'est du pétrole. on travaille avec ça, avec cette idée aussi d'inertie. Et voilà, il n'y a rien qui bouge, mais c'est là que l'esprit fait tout le travail et que ça devient excitant et qu'on rentre complètement dans le jeu, comme font les enfants, à s'inventer des mondes et les créatures qui l'habitent, etc. Mais comme dans le spectacle Lai 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 Lai, donc c'est cette fille qui débarque dans un imaginaire avec des personnages. Est-ce qu'ils sortent de son imaginaire ou est-ce qu'ils sont existés, où est la réalité? Donc j'ai fait beaucoup d'installations avec les animaux empaillés, toujours dans cette idée de réanimation de la matière morte, donc soit à travers un mouvement physique ou soit dans une mise en scène statique comme ici, ou avec le son ou avec le mouvement. Donc vous parliez des lignes d'ADN, enfin moi ça me fait beaucoup penser aussi aux ondes sonores qu'on peut retrouver quand on les visualise sur un écran d'ordinateur, ou vu que j'ai beaucoup travaillé aussi avec cette matière, le son, pour faire onduler des surfaces d'eau. Donc voilà, en fait, si on pouvait feuilleter justement un catalogue avec juste des images des installations que j'ai fait ces 4 dernières années, tout se relie de manière un peu libre et pour moi, pas inconsciente, mais comme j'insiste, instinctive. Et là, moi, je me retrouve toujours dans une idée du jeu qui se retrouve au bord de la feuille. Donc, il y a de l'électricité, on marche grâce à ça. Tous ces réseaux, en fait, tous ces fils, ça rejoint exactement les réseaux de la pensée. Donc j'aime beaucoup les prendre en compte et puis ne pas les cacher. Voilà.
Réseau, flux, énergie. Dernière chose, il y a une trajectoire qui part de l'extérieur du bâtiment. Il pourrait y avoir plusieurs sujets. Est-ce que c'est venu de manière complètement aléatoire? Vous aviez cette volonté d'ouvrir une architecture peut-être assez imposante, peut-être assez fermée aussi, que vous avez bien connue puisque vous avez eu un atelier pendant 2 ans ici. Et donc, c'est aussi un bâtiment, ça se mérite d'entrer dans ce bâtiment. Et quand on a des personnes âgées qui essaient de franchir ces portes énormes, il faut venir les aider. Vous avez un petit peu ouvert, même discrètement, la chose, juste sur cet aspect du sillage ici, puis le choix simplement du pop-corn.
L'ouverture sur l'extérieur, ouais, c'est un petit peu un clin d'œil. J'aurais été très excité de faire beaucoup plus, mais bon, après, bon, voilà, ça s'organise différemment. Enfin, puis il faut savoir que c'est de plus en plus difficile d'investir des espaces publics au niveau des normes de sécurité. Donc on fait pas n'importe quoi, on fait pas tout ce qu'on veut non plus. Et voilà, donc c'est un clin d'œil pour dire que voilà, il pourrait débarquer de partout et traverser tous les murs de la ville. Il me reste des kilomètres de watts, c'est bon quoi. Mais et puis ben le choix du popcorn, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, pour un petit peu renforcer l'aspect de dérision de l'installation, toute cette énergie mise en place pour finalement un pauvre pop-corn. Donc, il y a une idée aussi de compétition. Je pense qu'on peut y retrouver plein de... On peut faire plein de liens avec différents domaines, que ce soit le sport ou l'instinct de survie.